next hearing, which is about economic, social, and cultural rights in Cité Soleil, Haiti. This hearing has been requested by members of the collective de Notables de Cité Soleil, with the participation of that organization and of the state of Haiti. According to the request that was made to the Commission, the hearing objectives are to present information on the situation of enjoyment of economic, social, and cultural rights in Cité Soleil, and making a link between the situation as presented by the Commission in this 2008 annual report and the one faced by Haitians in 2009, with a special focus on these rights in Cité Soleil. I will give the floor first to the petitioners for 20 minutes, and then to the state for 20 minutes. Then the commissioners will raise some questions, and there are going to be some further time for both parties to address these questions and further observations.
Merci. Honorable commissaire, Monsieur le représentant du gouvernement haïtien auprès de l'OEA et les autorités de Port-au-Prince, les membres du secrétariat exécutif de la CIDH, distingués membres de l'assistance. Le collectif des notables de Cité Soleil vous remercie, le secrétariat, de l'opportunité offerte à la population de Cité Soleil de participer à l'audience de cette session. Nous voulons tout d'abord attirer votre attention que le CONOX travaille dans les domaines de l'éducation, aux droits humains, de la surveillance et du plaidoyer au profit des habitants de Cité Soleil. Le CONOX a eu ces derniers mois quelques importantes réalisations dans l'éducation aux droits humains. Nous avons organisé en septembre dernier une formation au profit de 22 enseignants de nos trois écoles communautaires en vue d'implanter un module d'éducation aux droits humains dans le curriculum de ces écoles. 520 élèves de 7 à 17 ans seront les bénéficiaires directs de ce projet. Dans le cadre du projet IDH pour tous, nous avons commencé avec les policiers de notre commune. 50 policiers ont suivi une formation sur les droits humains de base, les principes et les valeurs des droits humains. Le deuxième groupe bénéficiaire de ce projet est 35 femmes leaders du réseau des organisations de base de Cité Soleil. Et nous comptons élargir cette formation à d'autres secteurs. Nous avons commencé une émission de 2 heures par semaine intitulée « Espace droit moun en créole » et « Espace des droits humains » sur les ondes d'une radio communautaire de Cité Soleil. Avec l'appui financier de la NED, la Fondation nationale pour la démocratie basée ici à Washington, D.C., nous allons organiser au mois de décembre 2009 et avril 2010 une formation de 10 jours sur le renforcement des organisations de base et l'éducation aux droits humains. Les postulants seront, après cette formation, capables d'enseigner les valeurs et les principes des droits humains dans leurs groupes respectifs. Dans le cadre de ce même projet, le CONOX organise chaque mois un débat public sur la démocratie et le respect des droits humains, avec plus de 150 leaders engagés de la communauté. Avec l'aide de la PHR, un programme de la PADF, le CONOX va commencer un projet au profit de 60 anciens BCG et jeunes vulnérables qui les aidera à maîtriser les valeurs des droits humains et un métier qui les permettra de gagner de l'argent honnêtement. C'était en bref une partie que le CONOX réalise actuellement pour la cause des droits de la personne en Haïti. Bref, le début de l'ère du gouvernement actuel est marqué par une amélioration dans le domaine des droits de l'homme. La diminution des cas de violence dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince par l'arrestation des superchefs de gang a donné un certain souffle à la population en proie à la pire forme de violence et au kidnapping. Jusqu'à présent, on n'entend pas des gens qui sont menacés pour leur opinion ou leur discours. Cependant, les suspicions qui ont plané sur le Conseil électoral provenant au sein même de ce conseil l'espoir que les droits politiques des habitants des départements du Sud et de l'Artibonite auraient été violés, car ils n'ont pas les représentants qu'ils ont élus malgré la faible participation du peuple dans ces comices. En dépit de ces failles, un pas important vient d'être franchi par le vote d'une loi sur la liberté individuelle par le Parlement. Au cours de ce dernier mois, cette décision a été bien accueillie par les défenseurs des droits humains en Haïti. En effet, un domaine souvent négligé par la grande majorité des acteurs de la grande famille des droits humains, les droits économiques sociaux est le principal point de notre intervention. Après une visite dans l'une des zones les plus inhumaines de la commune de Cité-Soleil, nous étions plongés dans une profonde réflexion. L'une des questions qui nous est venue à l'esprit est celle-ci. Peut-on parler de respect des droits humains dans une communauté où la misère et la pauvreté règnent? Alors que l'un des principes des droits humains, l'interdépendance, exige que tous les droits soient traités de la même façon, car la violation de l'un entraîne automatiquement la violation de l'autre. Ces réflexions et analyses ont porté les responsables de Conox à entreprendre une enquête sur les droits humains de la deuxième génération. Ils ont ciblé 5 de ces droits. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit au travail, droit au logement, droit à l'alimentation. Ces droits consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait partie de la législation haïtienne, étant le préambule de la Charte fondamentale de la République d'Haïti. La Convention interaméricaine des droits et devoirs de l'homme, que l'État d'Haïti a signé et ratifié, exige un minimum de confort pour l'être humain au point de vue économique et social. On pourrait admettre qu'Haïti est un pays pauvre, on dirait même le plus pauvre de l'hémisphère. Mais le budget de la République ne manifeste aucune volonté de la part du gouvernement de commencer à l'application de ces textes en ce qui concerne les droits économiques et sociaux. En avril de l'année dernière, au nom de l'un de ces droits, il y a eu en Haïti un événement qui a secoué le pays, qui a eu comme résultat immédiat le départ du Premier ministre Alexis et le vandalisme des biens du secteur privé des affaires. Il est vrai qu'au fond, l'observateur avisé pourrait ne pas voir la question de la fin dans la finalité de l'événement, mais les gens qui gagnaient les rues en avril 2008 protestaient contre la vie chère et la faim. Dans son rapport de 2008, la CIDH a fait état de la situation d'instabilité que ces événements ont eu avec le départ du Premier ministre Alexis, ont causé la paralysie d'un certain nombre de projets. 4 mois plus tard, Mme Pierre-Louis est accédée à la primature avec le fameux plan pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Jusqu'à présent, aucune croissance et la pauvreté est soudée dans le pays. Le pouvoir d'achat des couches défavorisées est révisé à la baisse et la famine est présente dans la majorité des familles. La situation actuelle par rapport au moment où la CIDH a écrit son rapport est en chute libre. On ne devrait pas oublier le passage des 4 ouragans Faye, Gustave et Anna qui a compliqué la situation, mettant à nu les faiblesses d'un État vieux de 205 ans qui malheureusement n'est pas en mesure de se prendre en charge pour respecter l'essentiel des 3 premières générations des droits humains au profit de ses filles et de ses fils. Sur la situation des habitants de Cité-Soleil par rapport aux droits économiques et sociaux, étant donné que nos moyens et le temps ne nous permettent pas de couvrir toute la commune de Cité-Soleil, voire la République d'Haïti, nous avons choisi 5 zones de la commune qui, à elles seules, représentent environ 100 000 personnes. Bélécou, Brooklyn, Bois-Neuf, Cité-Fréquier-Haïti et Cité-Lumière. 12 enquêteurs et enquêtrices ont participé volontairement à cette enquête. Ils ont choisi 100 familles par zone. Donc, 500 familles ont répondu à 50 questions posées par les enquêteurs. Le passage des questionnaires a duré 2 semaines. Le traitement des questionnaires par le noyau du Bureau de recherche et de communication de Conox a duré 2 semaines. Et nous avons comme conclusion. Sur l'ensemble des personnes interviewées, 2,8 seulement ont accès à l'eau potable au niveau des adultes. 18% des bébés ont consommé de l'eau potable. Un seul hôpital pour le centre-ville avec 30 lits. 75% des femmes enceintes ont reçu des soins prénataux. 25% de familles ont une latrine. 25%. Vous imaginez ce que les autres font quand elles ont ce besoin physiologique? Hélas, au 21e siècle, des gens vivant ainsi au cœur des Amériques. Le droit à l'éducation. 41% des personnes interviewées savent lire et écrire. 12,4% ont terminé leur certificat d'études primaires. 1% ont terminé leur études secondaires. 0% n'ont pas même vu la porte de l'université. Et 14,6% ont un métier manuel. Toute la commune a 2 établissements d'enseignement secondaire public et 2 écoles nationales pour des études primaires. Tous ces centres ne peuvent pas recevoir 8000 élèves convenablement. Or, la commune a 483 000 habitants. Dans le domaine du travail, 14% des familles ont les 2 personnes qui ont une activité génératrice de revenus. Dans 27% de familles, le mari seul se dégage. Et dans 29% des familles, seule la femme a une activité. Analysant les rentrées des familles, 30% gagnent entre 1 000 et 3 000 goudes par mois. 4% gagnent entre 3 000 une goudes et 5 000 goudes. Et 0,6% gagnent entre 5 000 une goudes et 7 000 goudes. Et 0,4% gagnent entre 7 000 une goudes et 9 000 goudes. Nous avons un total de 35,4% de la population ciblée qui ont un revenu entre 1 000 goudes et 9 000 goudes. Or, le seuil de la pauvreté pour nous, les autres haïtiens, selon la Banque mondiale, est de 2640 goudes à raison de 2 dollars US pour 88 goudes. En conclusion, 70% de la population ciblée vit au seuil de la pauvreté. Pour le droit au logement, le centre-ville de Cité-Soleil est garni de taudis, à l'exception des projets de l'État qui sont encore des bidonvilles, construites sans latrine. 46,6% des maisons sont construites en de tôles usagées, 52% en bloc et 2,2% en planche. 85,2% des maisons sont coulées quand il pleut. 85,2%. Pour l'alimentation, 3,8% ont mangé 3 fois par jour. 18% ont mangé 2 fois et 60% ont mangé une seule fois par jour. Et 19,2% ont mangé parfois. Parfois. Parmi ceux et celles qui ont goûté quelque chose, on a voulu savoir est-ce qu'ils ont mangé à leur satisfaction. 5,4% ont répondu affirmativement. Il n'y a aucun programme au niveau du gouvernement qui vise à apporter un soutien alimentaire aux démunis. Malheureusement. Pour nous autres au Conox, ce tableau est sombre, bien qu'il contienne des chiffres assez encourageants. Le niveau humain de notre commune est dégradant. Si les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas accès à une éducation de qualité, comment sera l'avenir de ce pays? Si nos bébés n'ont pas une nutrition adéquate, ils n'ont pas même accès à l'eau potable, comment baisser le taux de malnutrition de la mortalité infantile? C'est autant de questions que nous pouvons nous poser ce midi. Nous voulons terminer notre intervention par 2 petites recommandations. Nous demandons au commissaire, dans leur prochaine visite en Haïti, quand ils auront rencontré les responsables politiques d'Haïti, de les conseiller avec insistance de tenir compte des droits économiques et sociaux dans le budget de la République qui n'a pas changé de format depuis belle lurette. De conseiller les institutions de la coopération internationale qui interviennent en Haïti, en particulier à Cité-Soleil, surtout celles qui viennent de l'hémisphère, de tenir compte des réels besoins des populations pour qu'il n'y ait pas de duplication entre plusieurs agences sur des sujets farfelus alors que les besoins réels restent entiers. Cette démarche diminuera le nombre de projets et programmes sans impact qui n'ont jamais atterri. Les droits humains de la deuxième génération sont des droits comme les autres. Il ne peut y avoir de droit à la vie si les droits à l'alimentation et à la santé ne sont pas respectés. Nous sommes attachés fortement à tous les principes des droits humains, notamment à l'interdépendance qui veut que tous les droits soient égaux et reliés les uns aux autres. Le monde est révolu. L'ère de reléguer les droits économiques, sociaux et culturels est dépassée. Notre point focal n'est plus la dictature et l'arbitraire, bien que la tendance est là chez nous, il faut s'y veiller, mais la misère et la pauvreté qui sont des ennemis de premier plan des droits humains aujourd'hui. Je vous remercie.
Thanks for your presentation, and the state has 20 minutes for its presentation.
Merci, président. Et je salue le compatriote de Connox. Président, c'est vrai, beaucoup de choses qui viennent d'être dites là sont une réalité. Mais de l'exposé de l'intervenant, il manque un grand vide et qui vous facilitera un petit peu la compréhension de la situation. Le vide qui manque, c'est plutôt un vide, je dirais, historique ou même une explication de cette cité-soleil-là. Et actuellement, quand on parle de cité-soleil, peut-être dans la tête de n'importe quelle personne de l'Amérique latine, on s'imaginerait seulement une grande bidonville. Mais cité-soleil, c'est moins qu'une grande bidonville par rapport à la situation. Haïti, actuellement, nous avons une densité de population, c'est-à-dire nombre d'habitants au kilomètre carré, qui est près de 400. Tandis qu'à Cité-Soleil, on a une densité allant de 5000 à 15000 au kilomètre carré. Ce qui manque dans l'explication de l'exposant, c'est vous dire que Cité-Soleil, si on devait voir Cité-Soleil, on devait géographiquement la diviser en deux. Et une partie qu'on dirait réparable avec la possibilité de réaménager sur le plan infrastructurel, mais une autre partie qui n'est du tout pas réparable, puisque c'est le fond de mer qui a été rempli de détritus, d'alluvions et même une poussée de la mer de manière artificielle et que les gens s'y installent. Et la forme d'installation, c'est une migration qu'on a connue en Haïti, parce que Haïti a deux formes de migration. Une migration externe, c'est l'immigration où les Haïtiens partent vers l'extérieur, et très souvent les cadres. Mais il y a cette migration interne où les gens laissent les endroits enclavés, laissent les montagnes vers les grandes villes. Et cette migration-là, dont les signes sont visibles à la Cité-Soleil, et c'est les gens viennent par n'importe quel moyen de transport de fortune, canaux, etc., et s'installent sur au fond de mer. Donc, là, rapidement, lorsqu'il vous dit qu'il y a près de 485 000, c'est 485 000 avec un recensement d'une marge d'erreur allant jusqu'à 15%. Donc, vous pouvez vous imaginer, c'est encore beaucoup plus. Et lorsque vous êtes dans cette situation d'opacité, de gens entassés, vous vous imaginez le risque de pandémie. Et vous comprenez également pourquoi durant des années 2000, 2004 et jusqu'à 2006,
et c'était sous l'effet parler d'elle en termes de kidnapping, parce que c'est presque un espace inaccessible. Et en termes de représentation de l'État ou de services ou des services publics. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que là, on a tendance, lorsqu'on entend cette vérité, à dire qu'on est en train de se plaindre, on n'est pas État, etc. Mais non, on n'est pas en train de se plaindre, on est juste face à un problème et que l'on cherche solution, mais on dit aux gens rapidement que les solutions ne viennent que par de grands moyens. Actuellement, Cité Soleil. Il y a une bonne partie de Cité Soleil, parce que quand on parle de Cité Soleil, on parle de 34 localités. 34 localités. OK? Et des espaces presque inaccessibles où les gens vraiment ils vivent. Maintenant, ce que l'État pourrait faire, c'est déplacer ces gens. Mais attention, on vous dit plus de 485 000. Pour un pays, dont je vous rappelle tout à l'heure, avec un budget de 89 milliards de gourdes, investissement et fonctionnement. Quand on parle d'investissement, c'est-à-dire il y a seulement 200 millions de dollars américains de prévision de budget d'investissement, dont 63% et plus sont des promesses de la communauté internationale. Donc pour déplacer Cité Soleil, on aura besoin beaucoup d'argent. Ou bien pour déplacer les gens de Cité Soleil, on aura besoin beaucoup d'argent. Donc, par rapport à cette situation, eh bien, l'État intervient pour voir comment un petit peu alléger, améliorer la situation socio-économique des gens. C'est pourquoi, ces derniers temps, que ce soit l'État, que ce soit les partenaires de la communauté internationale, il y a beaucoup d'argent qui sont investis à Cité Soleil. Mais vous pouvez vous imaginer l'ampleur de cette situation, c'est comme une catastrophe. Eh bien, la façon dont l'argent est dépensé, parce que l'État haïtien, par le manque de moyens, par le manque de finances, l'État haïtien ne peut organiser un projet allant de court, moyen, long terme en termes d'investissement ou de déplacement au niveau de Cité Soleil. Donc, l'État vient, suivant ses capacités au niveau du budget national, du trésor public, ou du moins suivant les offres faites par ses partenaires et internationaux. Donc, les formes de projet, c'est plutôt, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est des projets qui paraissent un petit peu de saupoudrage, qui n'arrivent pas vraiment à résoudre le problème des gens. Mais en dépit de tout, il y a toute une liste d'interventions de la part de l'État et de la part de certains, partenaires pour que l'on puisse alléger la situation des gens. Avec le ministère de l'Agriculture et le ministère à la condition féminine, on a essayé de recapitaliser les gens après la grande vague de violence qui a balayé Cité Soleil. On a essayé de recapitaliser et certaines familles en créant des poulaillers en leur et permettant de faire l'acquisition des pondeuses, etc. Au niveau du ministère des Affaires sociales, si Maître Dorléans peut m'aider, il y a toute une liste d'activités entreprises et pour aider les familles. Les enfants ont reçu des allocations pour rentrer à l'école, certaines familles ont reçu des allocations, des directeurs d'école ont été aidés. On a même essayé de sensibiliser les gens pour un retour à Cité Soleil. Voilà pourquoi, et avec l'appui de la MINUSTAH, on a pu réinstituer un commissariat de police à l'intérieur pour pacifier la zone. On est revenu avec le tribunal de paix qui ne pouvait pas et fonctionner sous la vague de la violence, et même une maison de justice, et ça c'est une innovation. La maison de justice parce que d'ordinaire, on aide aux gens d'avoir accès à un avocat quand il y a un problème, quand il y a des problèmes pénaux. Mais cette fois-ci, la maison de justice permet aux gens de résoudre également certains problèmes civils, tels que comment obtenir un acte de naissance, comment obtenir une rectification d'un acte de naissance, comment résoudre certains problèmes d'ordre civil qu'on n'avait pas. Et Cité Soleil a été une juridiction en ce sens pilote. Une fois la paix rétablie, le gouvernement, sur instruction express du président de la République, a mobilisé tous les secteurs de la vie nationale en vue d'une intervention concertée pour la prestation de services multiformes à la population de Cité Soleil. Ainsi, pour l'année scolaire 2007-2008, un montant de 32 millions de gourdes a été alloué à la rentrée scolaire et aux initiatives de base. Plus de 5 000 élèves ont bénéficié d'allocations pour qu'ils puissent boucler l'année scolaire sans difficulté. Des primes d'excellence ont été offertes à plus de 500 élèves qui se sont signalés au cours de l'année académique antérieure. 5 000 élèves à risque ont été recensés pour les intégrer au programme. Un contrat avait été signé avec 20 directeurs d'école communautaire pour la scolarisation de 1 500 élèves au niveau primaire et en troisième année fondamentale. Le programme s'est renforcé au fur et à mesure parce qu'inscrit au programme d'action urgente du gouvernement pour Cité Soleil. Il a contribué au climat de paix dans la cité en offrant un appui direct aux familles, aux élèves, aux directeurs d'école. Le programme a entraîné une augmentation du taux de scolarisation, une réduction du taux de déperdition scolaire et une atténuation du taux de délinquance juvénile. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, avec la Commission nationale de désarmement, on a non seulement fini par retirer les armes des mains des enfants, des mains de certains bandits, mais on les a réorientés, réinsérés avec un métier ou un petit métier. Voilà pourquoi, au niveau du CNE, il y a bon nombre d'entre eux qui trouvent emploi et qui travaillent maintenant dans la construction de routes, de poses de drains, de poses d'adoquins, etc. Donc, c'est vrai, la situation est telle qu'elle est. C'est vrai. La situation est catastrophique et ce n'est pas seulement pour Cité Soleil. On peut prendre la Fossette, on peut prendre Front National, on peut prendre Sainte-Hélène dans la Grand'Anse. C'est la situation d'Haïti. Haïti s'écroule parce que Haïti n'a pas les moyens de sa politique. Les recettes ne viennent pas au secours des dépenses. Et très souvent, nous sommes dans l'attente d'une aide internationale qui tarde toujours à venir. Voilà la situation. Merci.
Thanks very much for your presentation, Commissioner Roberts.
Thank you very much, Mr. Chairman. In my 8 years as rapporteur for Haiti, in my 8 years as rapporteur for Haiti, I have to say that there has been progress. I remember there was a time when there was no police presence at all in Cité Soleil. The police were afraid to patrol. They were not allowed to patrol in Cité Soleil for fear of their lives. But residents had to pay a ransom to leave their homes, and also really illegal activities. Now it has been reported to the Commission that there is peace in Haiti. At least the security situation is not what it used to be. that in fact there is, although there's no police station as such, there is police patrols, that in fact there is a presence of the police in that respect. I wanted to ask, you mentioned, the state mentioned that there were schools that were being mentioned, community schools and other schools. Are these state institutions? Are they run by the state, financed by the state in cities, or are they private enterprises?
I would like both parties to address an issue which is of major importance for the full enjoyment of economic and social rights, that both the Inter-American Commission, through several thematic reports, for instance, on access to justice and on economic and social rights, or other reports as well, not necessarily on Haiti, but general reports that the Commission has published, and also the UN Committee on Economic and Social Rights, has said that it is very important, it is indispensable for all states, regardless their economic situation, to have transparent and accountable policies in regard to these rights. And I would like the petitioner to evaluate, to provide the Commission with his points of view on where the state's policies on economic and social rights, generally speaking, not only about Cité Soleil, are transparent, that where you have the civil society has access to the information regarding these policies on an appropriate and fast way, and where there is an accountability of these policies. And I would like to hear also the state regarding this matter, to what extent these policies are transparent and accountable. Because as both the UN Committee and the Inter-American Commission has stated, a basic step to be taken for all countries is to have these policies transparent and public and with full access to information to society, to avoid corruption and to make the best use possible of the resources, even if they are not enough to cover all the needs of the population. So I will give the floor to the petitioner for 5 minutes first, and then to the state for 5 minutes too.
Merci, président. Et c'est très important de parler de politique transparente. S'il y avait une politique transparente au niveau du gouvernement, de l'État en général en Haïti, on pourrait comprendre pourquoi certains droits ne sont pas respectés. Certains droits économiques, sociaux ne sont pas respectés. On pourrait comprendre. Et on pourrait ne pas dépenser de l'argent pour sortir d'Haïti, pour venir jusqu'ici, participer à ce forum, à ce podium, pour présenter à la Commission comment sont les droits socio-économiques à Cité Soleil, de façon à conseiller l'État. Si nous avions les moyens en Haïti pour voir les responsables et les conseillers, on pourrait le faire. Depuis trois mois, nous cherchons une copie du budget de la République pour faire une étude comparative entre le respect de ses droits et le budget. On entend à la radio que 8% sont alloués à l'éducation. On n'a pas pu trouver une copie. Comme nous avons des autorités en face de nous, est-ce qu'ils nous promettent de nous donner? Nous pourrons déplacer, aller chercher ça. Une copie du budget de la République pour voir comment sont réparties les dépenses. En quoi on met de l'argent ou ne pas mettre de l'argent? Pourquoi telle rubrique est 20-30% et telle autre rubrique est 10-15% et 2-3%? je comprends l'intervention du secrétaire d'État. Je comprends son appréhension. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ici. Il y a certaines choses. Ce n'est pas bien de les dire. Mais seulement, on peut se rencontrer après et dire certaines choses. Parce que ce qu'il vient de dire là à propos des projets réalisés à la Cité solaire, je dis bien que ce sont des projets et des programmes sans impact qui n'ont pas atterri. La méthode, les façons de faire, sont des projets qui ont été réalisés pour enrichir certaines personnes au détriment de la population. Je peux citer un exemple, deux de ces projets. Le projet du ministère de la Condition féminine, où c'était un projet au départ de microfinance qui est devenu un projet de microcrédit. Les femmes de Cité Soleil ont remis l'argent. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où est passé cet argent. Jusqu'à présent. Je pense que nos compatriotes qui sont en face de nous sont de bonne foi. Surtout ceux de Port-au-Prince, on peut travailler avec eux et trouver une solution. Ce n'est pas de notre manière de venir ici en face des personnes et qui sont très peu concernées par la situation et dire certaines choses, alors que des personnes qui sont vraiment concernées, si on a les moyens pour parler avec eux, on peut le faire. Il n'y a pas vraiment cette politique de transparence chez nous. Il y a actuellement une affaire de 197 millions de dollars qui fait tache d'huile en Haïti. Même les parlementaires ne voient pas. Voient pour nous autres de la société civile. Il n'y a pas vraiment cette politique transparente qui pourrait aider les militants des droits humains comme nous à voir dans 89 milliards de goudes pourquoi on a fait tel choix. Pourquoi quand les responsables voyagent, il y a 15 personnes et non pas 5 ou 6 personnes. Pourquoi on utilise une voiture de 8 cylindres au lieu d'une voiture de 6 cylindres. On pourrait poser certaines questions. Mais avec des documents. Mais si on n'a pas ces documents-là, j'ai voyagé sur l'Internet. Je n'ai pas pu trouver aucun site où je peux trouver des documents en rapport aux dépenses de l'État. Je rentre sur le site du ministère de l'Économie et des Finances. Je ne trouve rien. Le peuple haïtien n'a pas ce droit, le droit à l'information. Et c'est un droit. C'est un droit. Nous devons savoir comment on dépense nos agents, nos taxes. Nous avons ce droit de savoir comment on les dépense, qui les gère. On ne sait pas. C'est 197 millions de dollars américains provenant du fonds de Petro-Caribé. Aucun haïtien ne sait où cet argent était. Disons, on ne dit pas ça. On ne sait pas. Les journaux, les médias en général, n'ont pas cette politique transparente. C'est ce que nous aimerions avoir, mais on n'a pas jusqu'à présent. Je pense que les autorités qui sont en face de nous pourraient parler avec leurs homologues et les collègues pour nous aider à voir. Nos emails sont connus, nos numéros de téléphone. Quand on fait des réunions au Palais national sur les questions des droits humains, le secrétariat et de la présidence nous appelle. Ils savent nos numéros, ils savent nos courriers. On peut nous envoyer des informations. Nous serions bien contents de recevoir comment l'État de chez nous dépense nos taxes, dépense nos agents. Merci.
Thank you. Now the state has 5 minutes.
Merci, Monsieur le Président. Et tout en voulant éviter une allure de polémique, mais il faudrait que le représentant de Conox dise par quelle adresse il a pu vérifier qu'il n'a pas trouvé des informations. Parce que là, vous pouvez bien vous tromper d'adresse, parce que si on fait l'adresse électronique du ministère des Finances, du ministère du Plan, eh bien, tout y est. Actuellement, on ne peut plus cacher des informations. Ça, c'est faux. C'est faux, on ne peut plus cacher des informations. Donc, n'importe qui, si vous voulez avoir des informations réellement, vous pouvez l'avoir. Il suffit d'être bien outillé et pour
pour le savoir. Maintenant, par rapport à la politique publique, là, j'attire l'attention du représentant de Conox. Lorsqu'on parle de politique publique, c'est l'ensemble des promesses politiques ou l'ensemble des décisions légales ou réglementaires que l'État essaie d'organiser à travers des actions orientées dans un agenda court, moyen et long terme. À partir du moment où ces aspirations politiques prennent corps pour être des projets articulés, concertés, on parle de politique publique. Or, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui où je suis encore secrétaire d'État à la justice chargée de la réforme judiciaire, je sais que le gouvernement ne travaille pas en dehors du DSNCRP, le document de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Et ce document de politique publique est travaillé de concert avec et les gens de la société civile et les partenaires internationaux. Que vous preniez le secteur justice, agriculture ou autre, on ne sort pas de la projection des 3 années de DSNCRP. Durant ces 4 dernières années, Haïti a fait un bond considérable en termes de politique publique parce que depuis le dernier plan quinquennat qu'on a connu sur le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, eh bien les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais pu organiser une politique publique à travers un agenda qu'on pourrait qualifier de quinquennat ou autre. Juste qu'à l'initiative du président Préval de dire qu'il faut partir avec un plan d'abord minimum de 3 ans pour arriver à un plan de politique publique de 25 ans pour tous les secteurs. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'est pas sorti de ce schéma à regarder l'ensemble des commissions présidentielles, commissions de compétitivité, commissions justice, etc. C'est les gens qui sont dans les entreprises de droit, dans les organisations de droits humains, dans la société civile, qui viennent dire leur position par rapport à la politique publique. Maintenant, trouver l'adéquation entre la volonté politique et les moyens, c'est là où le bât blesse. Et voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, je suis d'accord avec vous que certains éléments de politique, jusqu'à présent, n'ont pas atterri pour permettre à Haïti de parler maintenant du respect des droits socio-économiques. Et d'ailleurs, qui actuellement dans ce monde respecte ce droit? Tout le monde, c'est un idéal. On se bat pour l'atteindre. Et Haïti se bat actuellement pour l'atteinte de cet objectif. Par rapport aux déclarations, je me garde de répondre, sinon que je pense que la première ministre sortante l'a déjà si bien fait, non seulement dans ses déclarations publiques, mais également dans ses 5 à 7 caisses de documentation remises au Parlement en termes de justificatif de contrat, de rapport pour les 197 000 $ dont on parle tant. Mais tout le monde en parle. 197 000 $ à regarder, c'est même pas le budget d'une école primaire aux États-Unis, au Canada ou en France. On en parle parce que justement, nous sommes dans cette situation de pauvreté. Regardez ce que coûte un pont. Regardez ce que coûte 1 kilomètre de chaussée en Haïti actuellement. 1 kilomètre de chaussée en Haïti, c'est 1 million de $ américains. 1 million de $ américains. Et ceci, c'est l'offre internationale, à travers des appels d'offres internationaux. Alors, que nous cessions de lancer n'importe quoi en l'air, parce qu'en lançant n'importe quoi en l'air, on avilie pas seulement les gens du gouvernement, on s'avilie, et finalement, c'est des cicatrices qui restent pour des années encore. Et par rapport à la corruption, là encore, je m'en garde de parler, parce que le président en a tellement fait son cheval de bataille, à regarder l'ensemble des textes de loi qui sortent sur les marchés publics, sur et les biens, les avoirs des grands communes de l'État, sur l'exigence de déclaration et de ces biens et tout, sur la loi sur l'unité de renseignement financier, sur l'unité de lutte contre la corruption, sur les blanchiments d'argent et tout, on a tout un arsenal. Et sur le plan administratif, on dirait même Haïti s'est surverrouillé au point d'alourdir l'action politique. Parce que avant qu'un chèque sorte, avant qu'un fonds soit touché, il y a tellement de verrous et que l'on se sent même alourdi dans ces actions politiques. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas nécessaire pour moi, pour l'État, et de s'attarder sur l'ensemble des déclarations, parce que jusqu'à présent, et les membres de la commission, et n'importe qui, facilement peut vérifier les sites de l'État haïtien, les sites du ministère des Finances, les sites du ministère de la Planification. Et le dernier budget est posté et publié au journal officiel de la République. N'importe qui peut l'avoir. Parce que c'est publié au journal Le Moniteur. Donc, et voilà. Merci, Monsieur le Président.
I did not get an answer as to whether the state is now getting itself involved in the delivery of education in Haiti and Cité-Soleil. The schools you talk about, are they being built by the state?
Justement, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'État, pour intéresser les gens à retourner à Cité-Soleil, l'État a subventionné tout le monde, que ce soit le secteur public, que ce soit le secteur privé. Parce qu'il y avait des enfants qui fréquentaient des écoles privées, mais les directeurs d'école ont délaissé la zone pour la violence, et bien l'État a dû réunir et ses directeurs publics et ses directeurs privés pour un retour à Cité-Soleil. Voilà pourquoi maintenant, les enfants recommencent à reprendre leurs uniformes, on recommence à reprendre cours. Donc, et les chiffres que j'ai donnés là encore sont à vérifier, et que à Cité-Soleil, oui, il y a une reprise de l'éducation. C'est pas l'idéal, parce que l'idéal serait de permettre que non seulement les enfants aillent à l'école, mais que les enfants aient des matériels didactiques à jour avec le temps et pour faciliter l'apprentissage. L'idéal serait que l'on puisse envoyer des professeurs très qualifiés d'autres écoles et congrégations ou autres vers Cité-Soleil. Mais jusqu'à présent, il y a cette peur-là encore, cette frayeur-là de la zone encore. Mais on continue, l'État continue à intéresser les gens pour un retour à Cité-Soleil. Merci.
Thank you very much. We invite both parties if you have additional information on what has been the topic of this hearing to send it to the commission, and we will continue at 3 p.m. with another hearing on Haiti.